André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
T'es le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série d'émissions sur l'œuvre de Maurice Leblanc, romancier et créateur du fameux gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous. Bonjour André. Bonjour Philippe.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour Françoise. Bonjour André. Bonjour à tous.
Merci de nous faire partager les textes qui racontent les aventures d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc, né en 1864 à Rouen, a marqué l'histoire de la littérature policière avec la création de son personnage emblématique Arsène Lupin. Avant de devenir le père du célèbre gentleman cambrioleur, Leblanc avait déjà fait ses preuves en tant qu'auteur de romans psychologiques et de nouvelles, publiées dans diverses revues littéraires de son époque. Nous avons vu la semaine dernière que c'est en 1905 que la vie littéraire de Maurice Leblanc prend un tournant décisif. Pierre Lafitte, directeur du magazine Je sais tout, lui commande une nouvelle policière pour sa publication. Leblanc, inspiré par les aventures de Sherlock Holmes et désireux de créer un personnage typiquement français, donne alors naissance à Arsène Lupin. Une première nouvelle, l'arrestation d'Arsène Lupin, paraît en juillet 1905 et rencontre un succès immédiat auprès du public. Nous en avons parlé lors de notre première émission. Encouragé par cet accueil enthousiaste, Leblanc poursuit l'écriture des aventures de son héros. Il développe le personnage de Lupin, lui conférant un charisme irrésistible, une intelligence hors du commun et un sens de l'honneur qui le distingue des simples malfaiteurs. Arsène Lupin devient rapidement un phénomène littéraire, incarnant l'esprit français avec son élégance et son esprit et son audace. Au fil des nouvelles et des romans, Maurice Leblanc affine l'univers de Lupin, créant un monde riche en mystères, en rebondissements et en adversaires de taille. Le succès grandissant de la série permet à l'auteur de se consacrer entièrement à l'écriture des aventures de son héros, délaissant progressivement ses autres projets littéraires. L'Aiguille creuse, publié en 1909, que nous vous présentons aujourd'hui, marque une étape importante dans la saga Arsène Lupin. Ce roman, le troisième de la série, consolide la réputation de Leblanc en tant que maître du genre policier et d'aventure. L'intrigue complexe, mêlant énigmes historiques et prouesses du gentleman cambrioleur, illustre parfaitement l'évolution de l'écriture de Leblanc et la maturité atteinte par son personnage. L'Aiguille creuse, troisième roman de la série d'Arsène Lupin, plonge le lecteur dans une intrigue captivante, mêlant habilement mystère historique et aventure palpitante. L'histoire débute avec la découverte macabre du corps de Louis Valméras dans le château de son oncle, le baron d'Amfreville. Ce meurtre mystérieux devient rapidement le point de départ d'une enquête complexe qui va bien au-delà d'un simple fait divers. Voici un premier extrait, le chapitre premier, le coup de feu, dit par Françoise.
Raymond prêta l'oreille. De nouveau et par deux fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse, la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit des allumettes. « Raymond ! Raymond !» Une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymond ! C'est toi ! Tu as entendu ? » ?»« Oui, tu ne dors donc pas ? Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée il y a longtemps. Mais il ne la voit plus. Quelle heure peut-il être? 4 heures environ? Écoute, on marche dans le salon. Il n'y a pas de danger, ton père est là, Suzanne. Mais il y a du danger pour lui, il couche à côté du petit salon. Monsieur Daval est là aussi, à l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende? Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler, crier au secours, elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde ! Un homme près du bassin !» Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent distinguer la nature et qui, en ballottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent, qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte car l'homme disparut subitement et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon !» murmura Suzanne. « Non, l'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche, à moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme, qui portait aussi quelque chose, enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. « Appelons, appelons au secours !»« Qui viendrait ? Ton père ? Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui ? On pourrait avertir les domestiques. Ta sonnette communique avec leur étage. Oui, oui, peut-être, c'est une idée, pourvu qu'ils arrivent à temps. Raymond chercha près de son lit la sonnerie téléphonique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra et elles eurent l'impression que, d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes. « J'ai peur !» répétait Suzanne. Et tout d'un coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas !» J'ai peur! Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivi de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à 3 pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea vers les 2 jeunes filles, les avanglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et 2 brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne, courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre 2 corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père ! Père ! C'est toi ! Qu'est-ce que tu as ? » s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux. Et au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien, je ne suis pas blessé. » Et Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau ! Le couteau ! » Et à ce moment, 2 domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se leva devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort.
Raymonde de Saint-Véran est décrite comme une fille forte. Elle blessera Lupin au cours d'un cambriolage et puis tombera amoureuse de lui. Et par amour pour elle, Lupin va accepter de renoncer à l'Aiguille Creuse et à sa vie d'aventurier. Elle mourra à la fin du roman en tentant de le protéger. Au cœur de cette affaire se trouve Isidore Beautrelet, un jeune lycéen doué d'une intelligence remarquable qui se lance dans l'investigation. Et son implication dans l'enquête le met rapidement sur la piste d'Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Beautrelet, déterminé à résoudre l'énigme, se trouve bientôt engagé dans un duel intellectuel et fascinant avec Lupin, chacun cherchant à déchiffrer le mystère de l'aiguille creuse avant l'autre. Voici un extrait du chapitre 3, le cadavre, dit par Philippe.
N'avez pas aperçu le jeune Beautrelet ? Ma foi, non, monsieur le juge d'instruction. Ben, où diable peut-il être ? On ne l'a pas vu de la journée. Soudain, il eut une idée et se dirigea vers les ruines. Près de la grande arcade, à plat ventre sur le sol tapissé de longues aiguilles de pin, un de ses bras repliés sous sa tête, Isidore semblait assoupi. « Eh, quoi ? Que devenez-vous, jeune homme ? Vous dormez ? Je ne dors pas, je réfléchis. Depuis ce matin ? Oui, depuis ce matin, oui. Il s'agit bien de réfléchir. Il faut voir, d'abord. Il faut étudier les faits, chercher les indices, établir les points de repère. C'est après que, par réflexion, on coordonne tout cela et que l'on découvre la vérité. Oui, je sais, c'est la méthode usuelle. La bonne, sans doute. Moi, j'en ai une autre. Je réfléchis, d'abord. Je tâche avant tout de trouver l'idée générale de l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Puis j'imagine une hypothèse raisonnable, logique, en accord avec cette idée générale. Et c'est après seulement que j'examine si les faits veulent bien s'adapter à mon hypothèse. Drôle de méthode, rudement compliquée. Méthode sûre, monsieur Filleul, tandis que la vôtre ne l'est pas. Allons donc, les faits sont les faits. Avec des adversaires quelconques, oui. Mais pour peu que l'ennemi ait quelques ruses, les faits sont ceux qu'il a choisis. Ces fameux indices sur lesquels vous bâtissez votre enquête, il fut libre, lui, de les disposer à son gré. Et vous voyez alors, quand il s'agit d'un homme comme Lupin, où cela peut vous conduire. Vers quelles erreurs et quelles inepties. Herlock Sholmes lui-même est tombé dans le piège. Mais Arsène Lupin est mort. Soit, mais sa bande reste. Et les élèves d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes. Monsieur Filleul prit Isidore par le bras et l'entraînant, des mots, jeune homme. Voici qui est plus important, écoutez bien. Ganimard, retenu à Paris à l'heure actuelle, n'arrive que dans quelques jours. D'autre part, le comte de Gesvray a télégraphié à Herlock Sholmes, lequel a promis son concours pour la semaine prochaine. Jeune homme, ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelques gloires à dire à ces deux célébrités ? Le jour de leur arrivée, mille regrets, chers messieurs, mais nous n'avons pu attendre davantage. La besogne est finie ? Beautrelet réprima un sourire et, affectant d'être dupe, répondit « Je vous avouerai, monsieur le juge d'instruction, que si je n'ai pas assisté tantôt à votre enquête, c'était dans l'espoir que vous consentiriez à m'en communiquer les résultats. Voyons, que savez-vous ? Eh bien, voici, hier soir à 11h, les trois gendarmes que le brigadier Quévillon avait laissés de faction au château recevaient du dit brigadier un petit mot les appelant en toute hâte à Houville, où se trouve leur brigade. Ils montèrent aussitôt à cheval, et quand ils arrivèrent à Houville, ils constatèrent qu'ils avaient été joués, que l'ordre était faux, et qu'ils n'avaient plus qu'à se retourner à Ambrumésie. C'est ce qu'ils firent, sous la conduite du brigadier Quévillon. Mais leur absence avait duré une heure et demie, et durant cette heure et demie, le crime avait été commis. Mais dans quelles conditions ? Dans les conditions les plus simples. Une échelle empruntée au bâtiment de la ferme fut apposée contre le second étage du château, un carreau fut découpé, une fenêtre ouverte, deux hommes munis d'une lanterne sourde pénétrèrent dans la chambre de mademoiselle de Gesvres, et la baïonnèrent avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler. Puis, l'ayant attaché avec des cordes, ils ouvrirent très doucement la porte de la chambre où dormait mademoiselle de Saint-Véran. Mademoiselle de Gesvres entendit un gémissement étouffé, puis le bruit d'une personne qui se débat. Une minute plus tard, elle aperçut les deux hommes qui portaient sa cousine également liée et bâillonnée. Alors ils passèrent devant elle et s'en allèrent par la fenêtre, épuisés et terrifiés. Mademoiselle de Gesvres s'évanouit. Mais chien, monsieur de Gesvres n'avait-il pas acheté deux mollusques presque sauvages qu'on lâchait la nuit ? On les a retrouvés morts, empoisonnés. Oui, tout cela est fort simple et ne m'embarrasse pas. Lupin est mort, ses complices l'ont appris et pour se venger, ainsi qu'il l'avait écrit, ils ont assassiné madame de Saint-Véran. Ce sont là des faits qui n'avaient même pas besoin d'être contrôlés, mais Lupin, oui, qu'est-il devenu ? Bah, tout probablement, ses complices ont enlevé son cadavre en même temps qu'ils emportaient la jeune fille, mais Quelle preuve avons-nous de cet enlèvement? Aucune. Pas plus que de son séjour dans les ruines, pas plus que de sa mort ou de sa vie. Et c'est là tout le mystère, mon cher Beautrelet.
L'enquête d'Isidore Beautrelet, en partie fondée sur le déchiffrage d'un texte codé, va lui faire remonter le temps à la recherche d'un secret historique, la fabuleuse aiguille creuse. Il faudra rivaliser avec la police française, le fameux détective anglais Herlock Sholmes, et surtout avec Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Là-dessus, se greffe une histoire d'amour entre Arsène Lupin et la nièce du châtelain cambriolé au début du roman. L'intrigue se complexifie lorsque Beautrelet découvre que l'aiguille creuse est en réalité liée à un secret historique remontant à l'époque des rois de France. Ce secret, jalousement gardé au fil des siècles, serait la clé d'un trésor inestimable. La quête de Beautrelet le conduit à travers la France, déchiffrant des énigmes et des indices laissés par l'histoire, tout en essayant de garder une longueur d'avance sur Arsène Lupin. Et parallèlement, Lupin, toujours insaisissable, joue un jeu de chat et de souris avec Beautrelet et les autorités. Il manipule les événements avec son habileté coutumière, semblant toujours avoir un coup d'avance. Les actions de Lupin oscillent entre vols audacieux et gestes chevaleresques. Maintenant, le lecteur dans un constant questionnement sur ses véritables motivations. Voici un extrait, chapitre 4, face à face, Lupin et Beautrelet. Lupin n'est pas mort, dit par Philippe.
« Tais-toi donc, moutard !» hurla Lupin. « Tu ne sais donc pas qui je suis ? Et que si je le voulais ?» Ma parole, mais il ose rire. Un grand silence tomba entre eux, puis Lupin s'avança et d'une voix sourde, ses yeux dans les yeux de Beautrelet. Tu vas courir au grand journal. Non. Tu vas déchirer ton article. Non. Tu verras le rédacteur en chef. Non. Tu lui diras que tu t'es trompé. Non. Et tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'Andru Mézy la version officielle, celle que tout le monde a acceptée. Non. Lupin saisit une règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort la brisa net. Il essuya des gouttes de sueur qui perlaient à son front. Lui, qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés, l'entêtement de cet enfant le rendait fou. Il imprima ses deux mains sur l'épaule de Beautrelet et scanda. « Tu feras tout cela, Beautrelet. Tu diras que tes dernières découvertes t'ont convaincu de ma mort, qu'il n'y a pas là-dessus le moindre doute. » Tu le diras parce que je le veux, parce qu'il faut qu'on croie que je suis mort. Tu le diras surtout parce que si tu ne le dis pas... Oui, alors parce que si je ne le dis pas, ton père sera enlevé cette nuit, comme Ganimard et Herlock Sholmes l'ont été. Beautrelet sourit. Ne ris pas, réponds. Mais je réponds qu'il m'est fort désagréable de vous contrarier, mais j'ai promis de parler, je parlerai. Mais parle dans le sens que je t'indique. Je parlerai dans le sens de la vérité, s'écria Beautrelet ardemment. C'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre, vous, le plaisir. Le besoin plutôt de dire ce qui est et de le dire à haute voix. La vérité est là dans ce cerveau qu'il a deviné et découverte. Elle en sortira toute nue et toute frémissante. L'article passera donc tel que je l'ai écrit. On saura que Lupin est vivant. On saura la raison pour laquelle il voulait qu'on le crût mort. On saura tout. Et il ajouta tranquillement, et mon père ne sera pas enlevé. Ils se turent encore une fois tous les deux, leurs regards toujours attachés l'un à l'autre. Ils se surveillaient. Les épées étaient engagées jusqu'à la garde. Et c'était le lourd silence qui précède le coup mortel. Qui donc allait le porter? Lupin murmura. Cette nuit à 3 heures du matin, sauf avis contraire de moi, deux de mes amis ont ordre de pénétrer dans la chambre de ton père, de s'emparer de lui, de créer ou de force, de l'amener et de rejoindre Ganimard et alors Sholmes. Un éclat de rire, strident lui répondit. « Mais tu ne comprends donc pas, brigand, s'écria Beautrelet, que j'ai pris mes précautions. Alors tu t'imagines que je suis assez naïf pour avoir bêtement, stupidement, renvoyé mon père chez lui dans la petite maison isolée qu'il occupait en rase campagne ?» Et il reprit. « Vois-tu, Lupin, ton grand défaut, c'est de croire tes combinaisons infaillibles. Te déclare vaincu, quelle blague. T'es persuadé qu'en fin de compte, et toujours, tu l'emporteras. Et t'oublies que les autres peuvent avoir aussi leurs petites combinaisons. La mienne est très simple, bon ami. » Ah, il conclut par « Lupin, mon père n'est pas en Savoie. Il est à l'autre bout de la France, au centre d'une grande ville gardée par 20 de nos amis qui ont ordre de ne pas le quitter de vue jusqu'à la fin de notre bataille. Qu'en dis-tu, maître ?» Lupin saisit le télégramme qui se trouvait sur la table, le tendit et prononça très maître de lui « Tiens bébé, lis cela. » Beautrelet devient grave, subitement impressionné par la douceur du geste. Il déplia le papier et tout de suite, relevant les yeux, murmura « Mais que signifie ? Je ne comprends pas. »« Tu comprends toujours bien le premier mot, dit Lupin. Le premier mot de la dépêche, c'est-à-dire le nom de l'endroit d'où d'où elle fut expédiée. Regarde, Cherbourg. Oui, balbutia Beautrelet. Oui, je comprends, Cherbourg. Et après, il me semble que la suite n'est pas moins claire. Hein. Enlèvement du colis terminé, camarades sont partis avec lui, attendront instruction jusqu'à 8h le matin. Tout va bien. Qu'y a-t-il donc là qui te paraisse obscur? Le mot colis? Bah, on ne pouvait guère écrire Monsieur Beautrelet. Père. Alors quoi? La façon dont l'opération fut accomplie? Le miracle grâce auquel ton père fut arraché de l'arsenal de Cherbourg, malgré ses 20 gardes du corps? Bah, c'est l'enfance de l'art. Toujours est-il que le colis est expédié. Que dis-tu de cela, bébé? De tout son attendu, de tout son effort exaspéré, Isidore tâchait de faire bonne figure et bégaya quelques mots, puis éclata en sanglots. Oh papa, papa, papa.
L'histoire prend une tournure plus personnelle pour Beautrelet lorsque son père est enlevé, apparemment par Lupin. Cet événement pousse le jeune détective à redoubler d'efforts pour résoudre l'énigme, transformant sa quête intellectuelle en une course contre la montre pour sauver son père. Au fil de l'enquête, les personnages voyagent à travers différents lieux emblématiques de France, chacun recelant des indices sur le mystère de l'aiguille creuse. Des châteaux normands aux falaises d'Étretat, le roman offre un véritable tour de France historique et géographique, ajoutant une dimension d'aventure et de découverte à l'intrigue policière. Le récit atteint son paroxysme dans un face-à-face entre Beautrelet et Lupin, où le secret de l'aiguille creuse est enfin révélé. Cette révélation, mêlant habilement fiction et histoire de France, offre une conclusion spectaculaire à l'enquête tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur le personnage d'Arsène Lupin. Voici un dernier extrait. Chapitre 8, dénouement de l'aiguille creuse, dit par François.
Beautrelet jeta son sac et s'assit. La journée avait été lourde et fatigante. Il s'endormit un instant. Le vent frais qui circulait dans la grotte l'éveilla. Il resta quelques minutes immobile et distrait. Il essayait de réfléchir, de reprendre sa pensée encore engourdie. Et déjà, plus conscient, il allait se lever quand il eut l'impression que ses yeux soudain fixes, soudain agrandis, regardaient. Un frisson l'agita. Ses mains se crispèrent et il sentit que des gouttes de sueur se formaient à la racine de ses cheveux. « Non, balbutia-t-il. C'est un rêve, une hallucination. Voyons, serait-ce possible ?» Il s'agenouilla brusquement et se pencha. Deux lettres énormes, d'un pied chacune peut-être, apparaissaient, gravées en relief dans le granit du sol. Ces deux lettres, sculptées grossièrement mais nettement, et dont l'usure des siècles avait arrondi les angles et patiné la surface, ces deux lettres, c'était un D et un F. Un D et un F, miracle bouleversant. Un D et un F, précisément, deux lettres du document. Ah, Beautrelet n'avait même pas besoin de le consulter pour évoquer ce groupe de lettres à la quatrième ligne, la ligne des mesures et des indications. Il les connaissait bien. Elles étaient inscrites à jamais au fond de ses prunelles, incrustées à jamais dans la substance même de son cerveau. Il se releva, descendit le chemin escarpé, remonta le long de l'ancien fort, de nouveau s'accrocha pour passer au piquant du garde-fou et marcha rapidement vers un berger. « Cette grotte, là-bas, cette grotte !» Ses lèvres tremblaient et il cherchait des mots qu'il ne trouvait pas. Le berger le contemplait avec stupeur. Enfin, il répéta. « Oui, cette grotte qui est là, à droite du fort, a-t-elle un nom ?»
Dame, probable. Tous ceux d'Étretat disent comme ça que c'est les demoiselles.
Quoi? Quoi? Que dites-vous?
Eh ben oui, la chambre des demoiselles.
Les demoiselles. Un des mots, un des deux seuls mots connus du document. Un vent de folie ébranla Beautrelet sur ses jambes. Il comprenait. Le document lui apparaissait avec son sens véritable. La chambre des demoiselles. Étretat. « C'est cela, pensa-t-il. Ce ne peut être que cela. Comment ne l'ai-je pas deviné plus tôt ?» Une fois seul, Beautrelet retourna vers le fort. Il l'avait presque dépassé, déjà, quand tout à coup il s'abattit à terre et resta blotti contre un pan de mur. « Suis-je fou ? Et s'il me voit ? Si ses complices me voient ? Depuis une heure, je vais, je viens. » Alors, par menus gestes insensibles, à plat ventre, se glissant, rampant, il s'avança sur une des pointes du promontoire, jusqu'au bout extrême de la falaise. En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres, obélisque colossal, d'aplomb sur sa large base de granit que l'on apercevait au ras de l'eau, et s'effilait ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin, blanc comme la falaise, d'un blanc gris et sale. L'effroyable monolithe était strié de lignes horizontales marquées du silex. L'azur du ciel s'assombrit. Et Beautrelet, soudain, ferma les yeux et serra convulsivement contre son front ses bras repliés. Oh ! Il pensa en mourir de joie, tellement l'émotion fut cruelle qui étreignit son cœur. Là-bas, presque en haut de l'aiguille d'Étretat, en dessous de la pointe extrême autour de laquelle voltigeaient des mouettes, un peu de fumée qui suintait d'une crevasse ainsi que d'une cheminée invisible. Un peu de fumée montait en lente spirale dans l'air calme du crépuscule.
L'aiguille creuse se distingue par sa capacité entre la sémistérito historique, aventure palpitante et jeu du chat de l'assaut, entre un jeune détective et le légendaire Arsène Lupin. Maurice Leblanc crée une intrigue qui non seulement captive par son mystère, mais aussi fascine par ses références historiques et sa géographie pittoresque. Le roman parvient ainsi à transcender le simple cadre du polar pour offrir une véritable aventure intellectuelle et physique où l'histoire de France se mêle à l'ingéniosité criminelle et détective. L'œuvre de Maurice Leblanc, et particulièrement la création d'Arsène Lupin, s'inscrit dans un contexte littéraire fertile, à une époque où le roman policier gagne en popularité, notamment grâce aux aventures de Sherlock Holmes. Leblanc offre une alternative française, un anti-héros charismatique qui séduit par son esprit et son style. Il contribue ainsi à enrichir et à diversifier le paysage de la littérature policière internationale. La naissance d'Arsène Lupin et le succès de L'Aiguille Creuse ont non seulement transformé la carrière de Maurice Leblanc, mais ils ont également laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire française et mondiale. Plus d'un siècle après sa création, le personnage d'Arsène Lupin continue de fasciner les lecteurs et inspire encore aujourd'hui de nombreuses adaptations au cinéma, à la télévision et dans d'autres médias. Merci Françoise, merci Philippe et à très bientôt pour d'autres aventures d'Arsène Lupin. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour est la suivante. La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Elle est de Maurice Leblanc dans L'Aiguille Creuse de 1908. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5, la radio du Grand Toulouse. Bonne journée à tous et à mercredi prochain.
Au revoir.
Au revoir.